Take Care.
Take Care.
Le podcast qui prend soin de moi au boulot.
Aujourd'hui, nous parlons de santé et de sécurité au travail avec un focus particulier sur les nouvelles manières de se former. Comment mieux prévenir les risques professionnels avant qu'ils ne deviennent critiques? Quel format de formation s'impose aujourd'hui pour vraiment faire évoluer les comportements? Les explications d'Alban Jourdet, ostéopathe et directeur du développement de Néoforma. Bonjour Alban.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu?
Mais ça va et toi?
Mais très bien, merci. On parle souvent d'agir en santé au travail quand il est un peu trop tard, c'est-à-dire quand on a de l'absentéisme, des arrêts maladie, des TMS, voire des accidents de travail. Pourquoi est-ce essentiel aujourd'hui de miser sur la prévention?
Tout simplement parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un adage qui paraît un peu bête comme ça, mais en fait c'est extrêmement important. Et j'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. De façon ancestrale, en Chine, on allait voir son médecin régulièrement, de façon préventive. Et donc, on allait chez lui et on payait son médecin pour régulièrement. Puis le jour où on était malade, et ben là, c'est le médecin qui venait chez toi. Et là, tu ne le payais pas. Donc, c'est complètement inversé avec notre philosophie allopathique, qui est la médecine occidentale. Et j'aime bien un peu la morale. Après, ce n'est pas pour critiquer la médecine française, mais j'aime bien en tout cas m'inspirer de ça. C'est de se dire que le médecin le plus riche en Chine, c'est celui qui a le moins de malades, alors qu'en France, c'est celui qui en a le plus. Voilà. Donc il y a un côté assez sympa. Et oui, la prévention, c'est au mieux agir avant. C'est comme si tu construisais des armes une fois que la guerre était déclarée. Non, c'est avant qu'il faut le faire.
C'est une bonne image. Mmh. En entreprise aussi, du coup, la prévention est clé. Alors en quoi les formations, notamment, jouent aujourd'hui un rôle stratégique?
Et elles permettent justement d'être dans cette prévention et dans l'apport de connaissances pour soi, pour éviter de se faire mal, pour éviter qu'un drame arrive. Hein. Quand on parle de prévention des TMS, c'est éviter qu'il y ait un accident. Et quand on parle de formation au risque incendie ou au secourisme, par exemple, c'est parce que le jour où il y a un drame qui arrive, on est prêt. On est prêt et même s'il y a une situation de stress qui fait qu'on peut oublier les connaissances, on a des repères qui vont nous aider.
En présentiel, quels sont un petit peu les formats, on va dire, tout d'abord classiques proposés et qui sont efficaces?
Ça va être des formats de formation présentielle avec un formateur qui vient. Le mieux quand même, peu importe la formation, ça va être vraiment d'être dans l'interaction. Ce qui est extrêmement important, c'est que chacune et chacun se sente acteur de sa formation. Puisque sinon, si c'est juste pour consommer, être un peu comme un cours magistral, il n'y a pas d'impact. Donc, il faut interroger, faire. Et ça, c'est extrêmement important, être dans l'interaction.
Alors, pour que justement il y ait cette interaction, on a de plus en plus d'approches expérientielles. Alors, je pense à des réveils musculaires, des mises en situation. Pourquoi est-ce important, justement, cette proactivité et quelles en sont les vertus et puis les formats qui existent aujourd'hui?
C'est d'accéder très rapidement, en fait, à la pratique. Dans la formation. Il faut de la théorie, il faut un peu de... Nous, d'un point de vue pédagogique, chez Néoforma, en fait, on part du principe qu'on va mettre en application quelque chose parce qu'on a compris pourquoi, on a compris le sens. Je te prends un exemple tout bête. Tout le monde sait qu'il faut, pour porter une charge, un carton au sol, plier les jambes, sauf que personne ne le fait, parce que personne ne sait pourquoi. Donc, il est important quand même de passer par cette phase un peu théorique. Et dans ce cadre-là, c'est expliquer comment est faite l'anatomie et la biomécanique pour comprendre pourquoi c'est important de plier ses jambes. Puis après, il faut faire. Et il faut que chacun fasse. Donc, il faut être sur des formats qui soient assez courts, avec des effectifs qui ne sont pas forcément très nombreux, et où on fait. Et puis, on est sur une génération, et on y reviendra un peu plus tard aussi, j'imagine sans doute, mais où tout va très vite. Donc, il faut, pour capter l'attention, vraiment changer de support et changer de... être dans l'action, quoi, en permanence.
Est-ce que le côté ludique marche bien aussi? Est-ce qu'il y a des escape games aujourd'hui, par exemple, ou des serious games qui parlent de santé au travail?
Ouais, alors nous, on a un escape game, on en a même deux, sur deux thématiques qu'on a développées pour justement sensibiliser sur les gestes et postures et l'ergonomie, soit en situation de travail sur écran, soit en situation de manutention. Et puis, on a même lancé aussi un autre jeu qui est la fresque des TMS, là, qui est un peu sur le même principe que la fresque du climat, sauf que là, c'est sur la prévention des TMS, hein, un jeu de cartes, etc. C'est hyper important, la gamification, déjà un peu pour dépoussiérer le milieu de la formation. Hein, on n'est pas en cours. Et puis, on est dans ce qu'on appelle l'expérience apprenante. L'expérience apprenante, c'est quoi? C'est tu es face devant une énigme, devant une situation où la réponse, elle ne t'est pas évidente. Et tu vas te creuser la tête, tout seul et en groupe. Et puis, comme tu vas trouver la solution, et ben le fait de t'être creusé la tête et d'avoir été coincé devant cette situation, tu vas t'en souvenir toute ta vie. C'est comme si c'était gravé dans le marbre. Donc, c'est ça qui est extrêmement important de cette expérience apprenante. Et puis après, l'autre enjeu de la gamification, c'est quoi? C'est que c'est comme les enfants. Hein. Les enfants, tu les fais jouer pour apprendre. et ben c'est pareil, on reste des grands enfants. Donc s'il y a ce côté ludique qui est attrayant, ben tu vas apprendre beaucoup plus. En fait, tu vas solliciter des zones de ton cerveau qui font que tu apprendras et tu retiendras beaucoup plus rapidement.
La fresque et puis les escape games, c'est aussi des formats collectifs, donc ça joue aussi ça d'apprendre en équipe.
Ouais, parce qu'on apprend de l'autre. En fait, quand on va être dans le collectif, c'est que on va autant apprendre de soi-même que de la diversité des autres. Voilà. Parce que moi, par exemple, je vais apprendre plus en lisant, toi, ce sera en entendant, par exemple. Et donc, le fait d'apporter différentes solutions, tiens, bah, ça, j'y ai pas pensé. Et en plus, ça peut permettre de le faire en collectif, de se souvenir sur des repères visuels, sur des repères auditifs qui ont fait appel à un moment à une émotion et qui vont marquer justement la connaissance, qui vont l'ancrer. Donc ça, c'est important, le collectif aussi. Ouais.
Depuis le Covid notamment, il y a un boom du e-learning. Est-ce que c'est une stratégie efficace quand on veut aussi aborder des sujets de santé et sécurité au travail?
Ouais, c'est extrêmement efficace. Déjà parce que ça permet un déploiement à grande échelle, sans contrainte. Sans contrainte. Et ça, c'est extrêmement important parce que parfois, c'est difficile de mobiliser des équipes quand on est dans de la production, qu'on a vraiment du rendement à faire. Et le e-learning va permettre ça et ça va permettre de synthétiser les formations de façon extrêmement efficace, extrêmement synthétique et qui va tout de suite à l'essentiel. Si on est aussi dans ce modèle e-learning interactif, c'est-à-dire que si c'est pour lancer une vidéo qu'on va écouter, bon, là, il n'y a pas d'intérêt. Si tu sollicites le clic, s'il y a des questions qui sont posées, s'il faut faire des actions avec des glissés, des posés, bouger des curseurs, oui, là ce sera extrêmement intéressant. Et en plus, ce sera vraiment complémentaire avec le présentiel, c'est sûr.
Et c'est ce que j'allais dire justement, est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui qui combinent les deux? Est-ce que ce n'est pas là, au final, le meilleur des deux mondes?
Ouais, franchement, c'est le blended learning, t'as tout à fait raison. C'est vraiment là qu'il y aura un maximum d'impact de toute façon. Et c'est vraiment vrai aujourd'hui avec notre génération qui a besoin, qui est multi-support, tout va très très vite, on est à l'ère du scroll, on n'est pas capable de capter son attention plus de 2 minutes, et puis nos adolescents, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc il faut vraiment multiplier les supports. Donc le présentiel, moi je suis ostéopathe de formation, donc je suis un peu un terrien, donc avoir quelqu'un, un formateur qui est face à toi, pendant 2, 3, 4 heures et qui va t'expliquer des choses, tu seras à un niveau de connaissance qui sera énorme. Sauf que tu l'as le jour J, et puis 3 jours après, 3 semaines après, il y a cette notion de courbe de oubli où quand tu es 3 semaines après, tu as oublié presque 70% de ce que tu avais vu. Et c'est là où le e-learning vient en complément, soit en prérequis, soit avant de faire la formation pour que la formation soit un maximum, enfin la formation présentielle, qu'elle soit un maximum pratique, soit aussi en recyclage et en ancrage mémoriel. Parce que une fois que tu as fait la formation présentielle, quand tu reviens un mois après, 6 mois après, 1 an après, sur du e-learning avec une correspondance entre les deux formations, ça va permettre de te remémorer ce qu'a dit le formateur aussi quand il était là en présentiel. Parce que pareil, tu vas aussi avoir ces repères visuels, ces repères auditifs, même parfois ces odeurs où ça va réactiver ces connaissances. Et du coup, tu vas garder en fait un niveau de connaissance qui sera vraiment satisfaisant.
Quels sont les freins que vous rencontrez peut-être le plus en entreprise, alors soit des collaborateurs ou peut-être aussi des fois de la part de la direction, et comment vous les levez?
Alors, les freins, c'est qu'on peut avoir l'impression que la formation ou la prévention, c'est une perte de temps, c'est un coût. Voilà, typiquement, ça peut être ça. Hein. C'est un coût pour l'entreprise. J'ai pas le temps de laisser une dizaine de personnes pour une formation d'une demi-journée où ils sont pas habitués au smartphone ou aux ordinateurs pour faire une formation digitale. Voilà, ça va être ça. C'est cette idée que c'est un investissement à moyen et long terme. On n'est pas toujours, c'est de la même manière, on est une génération où il faut une rentabilité très court terme. Donc, il peut y avoir ce frein-là. Comment on va lever? En fait, c'est que nous, on va justement éprouver notre fonctionnement avec des statistiques. Typiquement, on a des sociétés avec lesquelles on a des résultats sur l'accidentologie qui sont énormes. Nous, on travaille vraiment beaucoup autour des TMS. Et ben, c'est 70% de baisse des accidents de travail liés aux TMS sur un an de formation pour un projet pilote. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vendre. Et c'est souvent des éléments qui peuvent être financiers pour les directions financières. Ou alors, ça va être des éléments qui vont être pratiques et pragmatique pour les managers un peu intermédiaires qui disent « mais moi, j'ai pas le temps de former des équipes ». Bah si, en fait, on a le temps et on va le faire et on va le faire pour eux.
Quelles erreurs, à ton avis, faut-il vraiment éviter?
C'est peut-être trop en faire d'un coup. C'est peut-être trop en faire d'un coup, c'est de se dire « on va y aller étape par étape ». Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien analyser la situation et de poser un bon diagnostic, hein, puisque À partir de là, on va pouvoir mettre un plan d'action en place. Si on se dit, moi, l'an prochain, il me faut un max de budget et puis je vais former tout le monde en même temps, bah, vous allez perdre en fait. Tu vas les perdre. Pourquoi ? Parce que il faut que ce soit à bon escient utiliser la formation. Et donc de dire, bah, les 6 premiers mois, on va faire ça, et puis les 6 suivants, on va faire ça, et puis on va travailler le matériel, et puis on va travailler l'environnement, etc. etc. Et donc pour éviter ça, bah, il faut vraiment, vraiment réfléchir à une vraie politique et à un vrai plan d'action, prévention. C'est extrêmement important, mais pour ça, il faut donner des moyens en temps, moyens humains et moyens financiers.
Si tu avais un dernier conseil à partager pour les entreprises qui voudraient s'engager peut-être davantage, ce serait lequel ?
Il faut sauter le pas. Il faut sauter le pas. C'est, je pense, aujourd'hui, vu la conjoncture et sans rentrer dans du pathos ou je ne sais pas quoi, mais la prévention d'entreprise et prendre soin de ses équipes, c'est à mon avis le plus gros levier qu'on peut avoir là directement. Parce qu'on a quand même des populations qui sont en souffrance, pas forcément à cause du travail, mais parce que à cause de l'instabilité, à cause d'une situation géopolitique et même économique qui est hyper instable, même politique hein, qui est hyper instable. Et le fait d'investir, pour moi, c'est investir dans le capital humain. Et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, puisque au départ, il y a de l'humain et à la fin, il y a de l'humain, de toute façon.
Merci beaucoup, Alban.
Merci, Fabienne.
Très bonne journée, à bientôt.
À bientôt.
Take care.
Take care.
Le podcast qui prend soin de moi au boulot.